Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois ce matin Maître Clarisse Serre. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Vous avez été conseillère pour la série Engrenage sur Canal+, des saisons 5 à 7, dites-vous. Et vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle La Lionne du Barreau aux éditions Sonatine. La lionne, c'est vraiment l'animal qui vous définit bien ou vous êtes plus proche du pitbull ou...
C'est surtout le surnom qu'on m'a donné depuis très nombreuses années. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour le surnom. C'est la chevelure et puis c'est aussi le tempérament. Et puis c'est un qualificatif qui me va bien. Pitbull, ça serait peut-être un peu excessif. Donc la lionne, ça me va très bien.
Taureau.
Et je trouve que mon signe du zodiaque, je suis taureau. Donc j'aurais pu être appelée taureau, mais je trouve que pour quelqu'un qui suit féministe comme moi, la lionne, c'est ce qui me convient le mieux.
Donc ça vous va bien.
Ça me va bien.
Une heure de radio où nous allons vous écouter. La voix, dites-vous, c'est l'outil de base d'un avocat pénaliste. Alors on parle toujours des ténors du barreau. Et quel est le féminin des ténors du barreau ?
Bah écoutez, c'est un peu mon problème. C'est que ça fait maintenant 27 ans que je suis avocate et que je n'ai pas trouvé le qualificatif. Je sais que certains aimeraient utiliser le terme de ténora. Je n'aime pas. Je trouve qu'il sonne faux. On me qualifie de temps en temps de diva. Ça me fait penser à, vous savez, à Tintin et la Castafiore. Donc j'aime ce personnage.
La Castafiore du barreau, c'est pas mal.
Ouais,
ça.
Ce serait pas mal.
Ah ouais.
Bon, alors après, c'est excessif, c'est mégalo, c'est prétentieux. Mais c'est surtout pourquoi dire la diva ? Bah, parce que c'est surtout pour attirer le regard des gens sur les femmes avocates. C'est avant tout ça. Parce que j'espère, grâce à ce livre, donner l'envie à des jeunes de pousser la porte du barreau. J'ai envie de dire aussi aux jeunes que c'est un métier difficile, contrairement aux apparences, aux séries notamment, où on pense que c'est tout feu tout flamme. J'ai envie de leur dire que c'est un métier, il y a beaucoup de la ténacité et puis le travail qui est très important. Et donc s'il faut qualifier de diva, de Castafiore, de que sais-je, pourquoi pas, il faudrait trouver un terme qui est propre. Je trouve qu'on ne l'a pas encore trouvé. Peut-être que ce qui résumerait le mieux, ça serait pénaliste. Voilà, parce que ça associerait à la fois la voix, l'expérience, et puis, vous le savez, maintenant, il y a plusieurs spécialités parmi le droit, et donc, avocat au pénal, c'est une spécialité à part entière.
Mmh. Quelle est la part de la voix dans le succès d'un avocat au pénal ? Vous pensez que c'est encore un atout et quelque chose qui permet...
C'est un sujet que j'aborde dans le livre et des gens qui ont le livre m'ont dit ah tiens, c'est incroyable parce que finalement on n'en parle jamais de cette voix. Ça nous paraît, ce que tu as écrit, alors des confrères, des consoeurs, puis même des gens qui sont pas des gens du milieu judiciaire m'ont dit mais c'est un des chapitres qui a beaucoup plu parce que on n'en parle pas. Alors je me suis rendu compte, c'est qu'il y a de très bons avocats, des très bons juristes, et quand ils vont en salle d'audience, on ne les écoute pas. En fait, il y a toujours la distinction, vous savez, pour nous, entre entendre et écouter. Donc, il y a des avocats qui, vous savez, il y a des affaires malheureusement très simples. C'est le cas de ce qu'on appelle les comparutions immédiates. Les gens qui ont volé ou qui ont été victimes d'un vol, ce sont des gens qui sont jugés dans les 48 heures qui suivent. Si vous écoutez ces audiences-là, si vous y allez, vous vous rendrez compte que le même jour, les magistrats vont avoir 5 fois le même dossier. Et donc, l'avocat, comment va-t-il faire pour se distinguer ? En fait, on se rend compte que s'il y a différents avocats qui interviennent sur la même affaire, eh bien, il y en a 4 qui ne vont pas être entendus et puis un qui va être entendu parce qu'il va avoir une voix, notamment qui va attirer l'attention, l'ouïe, et qui va faire la différence. Alors, c'est aussi quelque chose d'injuste parce qu'on dit oui, mais on a le droit tous d'être avocats. Bien sûr, et c'est ce que je revendique, mais il y a un phénomène contre lequel on ne peut rien faire, c'est sa voix, c'est son ADN. Il y a, c'est d'ailleurs pour ça au départ qu'on parlait des voix de ténor, il y a aussi la voix des sopranos. Une femme peut être tout à fait un soprano, il n'y a pas de difficulté, mais la voix a son importance. Alors, parfois, avec humour, c'est ce que je dis aussi un peu, j'essaie d'écrire dans le livre, ça serait pas mal de faire comme certaines émissions de télévisées et de dire aux magistrats « retournez-vous » ou les avocats, on n'écouterait que la voix, on oublierait le physique. Évidemment, on ne pourra pas faire la distinction d'un homme et d'une femme, mais on écoutera uniquement et on sera convaincu sur la voix. Donc oui, la voix, ça a vraiment son importance. Ça peut, puis d'abord, vous savez, là maintenant, les choses ont un peu changé. Il y a de plus en plus de micros, mais il fut un temps, il n'y avait pas de micro. Et donc, quelqu'un qui a une voix qui ne porte pas, on ne l'entend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à moduler sa voix, c'est pareil. Quand on plaide longtemps, il faut savoir aussi moduler sa voix pour toujours garder l'attention de ceux qui nous écoutent.
Vous avez travaillé, vous, votre voix ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
On vous a pas expliqué comment la placer, non. Comment l'économiser, surtout dans les quand non, vous plaidez longtemps. La voix, ça se fatigue énormément.
Ça se fatigue énormément. Ouais. Alors on apprend au fur et à mesure du temps. Je pense vraiment qu'il y a quand même aussi une chance. Il y a vraiment une question de chance. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà munis d'une voix plus importante que d'autres. Et puis maintenant, il y a des gens qui prennent des cours pour plaider. Il y a aussi pour moduler sa voix. Il y a des gens qui font comme des chanteurs, hein, qui font des entraînements. Mmh. Donc ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que les gens disaient, mais c'est fini plaider maintenant, ce qui compte c'est la technique, c'est les avocats en droit des affaires. Et parallèlement à ça, on a vu un phénomène éclore depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est les concours d'éloquence dans les facultés, dans les écoles de commerce, même dans les lycées, ce qui prouve l'importance de savoir parler, mais de la voix également.
Vous avez été recalé.
Moi j'ai été recalé.
Je ne sais pas que je te dise. Mais,
je l'assume.
Mais vous avez une très belle voix. Je suis le premier.
Voilà, vous avez
une très belle voix.
Voilà, vous êtes le premier à me le dire et donc je le garderai dans mon cœur.
Moi, je vous aurais pas recalé.
J'ai été recalé. Alors, peut-être pas uniquement par rapport à la voix, mais c'est vrai qu'il y a un concours prestigieux qui est propre à Paris, qui est ce qu'on appelle le concours d'éloquence. Et j'ai été jusqu'au troisième tour et j'ai été recalé. C'est exact.
On dit souvent que les avocats ont une bonne plume, et finalement, vous, votre plume, vous la mettez au service de l'éloquence et d'une plaidoirie, finalement, dans une stratégie de défense. Est-ce que vous avez un gros travail en amont d'écriture, peut-être sur des post-it, quand on voit sur les séries, sur des fiches cartonnées? Est-ce que vous avez des notes pour peut-être mettre les bonnes formules, les choses qui pourraient vous servir stratégiquement dans un dossier de défense?
Alors c'est incroyable parce que justement ce livre, La Lionne du Barreau, ça a été un vrai travail pour moi parce que c'est un travail d'écriture. Et pourquoi ça a été un vrai travail? Parce que je ne sais pas écrire. Donc il a fallu organiser les choses. J'écris pas de plaidoirie, j'écris comme vous dites des petits morceaux épars. En revanche, je travaille beaucoup mes dossiers. J'ai une grande mémoire pour me rappeler de tous les procès-verbaux. Et le travail dans les gros dossiers en particulier se fait au fur et à mesure de l'audience. C'est comme un puzzle. Les choses commencent à se mettre en place dans la tête. Et puis au moment de la rédaction, et souvent la veille de l'audience ou peu de temps avant de plaider aux assises, ça dépend quand on plaide, c'est la feuille blanche. Donc il y en a qui écrivent toutes leurs plaidoiries. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc j'écris quelques mots, j'écris un plan, j'essaye d'avoir un fil conducteur. Mais je ne sais pas, je ne pourrai jamais vous communiquer aucune de mes plaidoiries parce que je n'en ai jamais écrite une entière. Donc le livre... Eh bien,
il a fallu s'asseoir.
Il a fallu s'asseoir et j'ai connu ce que c'était que la feuille blanche et j'ai connu et j'ai pu, grâce à ce livre et grâce à mon éditeur Arnaud, j'ai pu toucher du doigt la page blanche de l'écrivain. Parce que je le dis encore une fois, je ne suis pas du tout écrivaine. J'ai simplement voulu apporter mon témoignage et le livrer comme je le vis. Et donc j'ai pu sentir du doigt ce que c'est de la difficulté d'écrire.
Vous êtes avocate 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un métier qui ne s'arrête jamais, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Mais comment ça vous vient, l'articulation, une idée? Ça vous vient sous la douche? Ça vous vient quand vous allez faire un jogging? Ça vous vient... Il y a un moment donné, vous savez, quand on cherche un axe de défense, il y a un truc qui vient. Vous, qu'est-ce qui fait que vous dites « Ah oui, c'est ça que je vais dire ».
Il y avait un président de la République qui avait dit une fois que le matin, quand il se rasait, il pensait qu'à une chose, c'est devenir président de la République. J'ai envie de vous dire, à mon petit niveau à moi, quand je prépare un dossier, je vais y penser dans le métro, je vais y penser au cabinet, je vais y penser partout. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une idée. Il n'y a pas de moment précis pour savoir. Puis il y a aussi autre chose, hein, au pénal, c'est quand même très particulier comme matière, puisque je plaide que au tribunal correctionnel et en cour d'assises, c'est l'humain. Que je sois en partie civile ou que je sois pour un accusé, ce qui prime avant tout, c'est la relation que j'ai avec l'humain. Et donc la plaidoirie, elle va aussi se nourrir d'échanges qu'on va avoir eu en amont. Et puis à un moment, il y a quelque chose au débat qui ne sera pas sorti. Et moi, je vais essayer de le faire sortir. Donc ça vient à tout moment. On est comme une éponge. Je suis un peu comme une éponge. Je prends tout ce qui se dit pendant l'audience, mais on oublie souvent que le métier d'avocat, c'est bien avant l'audience. L'audience, vous savez, pour nous, c'est un tout petit pourcentage. C'est peut-être
comme un sportif qui s'entraîne et qui va
exactement,
faire son match.
Quoi. Exactement. Il y a des dossiers. Je défends des gens. Là, je pense à des gens qui sont victimes d'un assassinat. Ça fait 3 ans qu'on attend le procès. Le procès pour nous n'a pas lieu le jour du procès, en fait. On a commencé en amont à préparer l'audience, à voir comment ils avaient vécu tout ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc c'est à travers ce travail de longue haleine qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est ça qui est magique dans la plaidoirie, qui sort de la bouche de l'avocat, mais qui nous échappe un peu. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait en nous-mêmes, eh bien on va réussir à le sortir, et on essaye de le sortir, j'essaye de le sortir au mieux.
Mmh. Alors aujourd'hui on appelle ça le mindset de l'avocat, mais vous, quand vous rentrez dans un tribunal, comment est-ce que vous préparez? Est-ce que vous avez... parce que le but, c'est de gagner.
Oui. En fait, c'est pas la bonne question.
Alors, dites-moi comment voilà, j'aurais dû poser
pas,
ma question.
C'est pas la bonne voilà. question, parce que là, c'est pas la bonne question. En fait, si vous prenez un avocat en droit des affaires, ils font essentiellement du conseil. Eux, comme vous dites, c'est de la gagne. C'est-à-dire, il faut gagner, il faut que le client gagne son contrat. Malheureusement, au pénal, on gagne pas. Enfin, on gagne très rarement. Au pénal, quand vous êtes victime, vous attendez quoi? Que celui qui a commis les faits, et vous pensez que c'est lui, et ce que vous espérez, c'est qu'il soit reconnu coupable. Est-ce qu'une victime dit qu'elle a gagné un procès? C'est très rare. Ce qu'elle a voulu entendre, c'est la parole de la vérité. Quand vous défendez un accusé, ou quand vous défendez quelqu'un qui passe au tribunal correctionnel, ce qu'on appelle un prévenu, la gagne, c'est quoi? La gagne, s'il reconnaît les faits, c'est de s'en sortir le mieux. Voilà. Ou alors c'est celui qui n'a rien à se reprocher, c'est la relaxe, ou s'il y a un problème de procédure, c'est la nullité. Mais c'est surtout, on lutte pour essayer d'être au mieux, d'être performant en permanence. Voilà, sur les 100% de dossiers que je gère, il y a des dossiers où j'ai évidemment, mais comme tout avocat, eu des succès. Puis il y a eu notre vie n'est pas fait que de succès. Donc quand
c'est ça que vous expliquez. Alors c'est parce que c'est ça que vous expliquez dans votre livre, hein, c'est que on gagne pas toujours.
Non, on gagne
on
pas
a pas toujours.
Toujours
des succès, et que finalement, si c'est un échec, ça a un impact sur
Bien
vous.
Sûr. En fait, ce qui a été un peu faussé, c'est, je pense, qu'il a été un peu. Il y a deux choses qui, à mon avis, un peu faussé l'opinion publique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est pour essayer d'expliquer aux gens que l'avocat, c'est pas forcément l'avocat bling bling. L'avocat, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et que l'image que l'on peut véhiculer, elle est pas forcément bonne. C'est-à-dire, les gens pensent tout de suite, ah bah l'avocat il gagne beaucoup d'argent, et puis l'avocat, il nous oublie. Bah c'est pas du tout le cas. Et je parle évidemment pour moi, mais je connais tellement d'avocats sur la France entière, parce que j'ai la chance de plaider un peu partout. On a tous le même souci. C'est un métier de passion. Avant tout, c'est un métier de passion. Donc, oui, c'est ce que j'ai voulu essayer d'expliquer. C'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que les choses ont été faussées pour deux choses. D'une part, toutes les séries, les séries mauvaises. Là où je n'ai pas été consultante, évidemment.
Hein, les mauvaises séries. Oui, voilà. Ça en fait beaucoup. Ça en fait pas mal, quand même.
Ça en fait pas mal, mais notamment les séries américaines, c'est pas... Évidemment, je plaisante, mais il y a aussi ça. Et puis, je crois que ça a été aussi faussé contre lui-même, d'ailleurs, mais aussi par notre ministre de la Justice. Parce que ça a été un immense pénaliste, mais que l'image qu'il a renvoyée, c'était une image que de succès. C'est pas de sa faute d'ailleurs, hein. Mais les journalistes ont renvoyé et l'ont appelé acquittateur en disant voilà. Et c'est vrai, c'est l'avocat, il faut le dire. Et moi, j'ai aucun problème pour le dire. Et même si aujourd'hui on ne peut plus le dire, mais ça a été le meilleur des pénalistes. Et il a acquitté un nombre de gens. Mais il faut aussi le dire. Et il le sait, et tout le monde le sait dans la profession. Il n'a pas fait qu'acquitter des gens. Et donc les gens ont fini par se dire que voilà, un avocat ça gagne, un avocat qui est puissant c'est celui, mais l'avocat au pénal, il ne faut pas oublier une chose. On est des auxiliaires de justice. La décision ne nous appartient pas. Celle à qui appartient la décision, ce sont les magistrats. Nous, si on avait le pouvoir, il y a des gens, je pense, que j'aurais demandé à ce qu'ils aient d'autres décisions. Il faut relativiser et il faut savoir ce qu'on est. On n'est que des auxiliaires.
Ouais. Quel rapport vous avez avec les magistrats? Vous allez manger avec eux, vous dînez avec eux le soir?
Alors, je dîne pas avec les magistrats. C'est un rapport qui est complexe.
Comme si vous expliquez finalement le rapport que vous avez avec les magistrats.
Ouais, les choses se sont dégradées. Moi, j'ai la chance d'accueillir chaque année dans mon cabinet des futurs magistrats. Et j'y tiens particulièrement parce que je pense qu'en fait, avant de critiquer, il faut se connaître. Et donc, pour critiquer les magistrats, et que pour eux nous critiquent, il faut qu'ils connaissent l'envers du décor. Donc, je les accueille chaque année avec grand plaisir. C'est des rapports qui sont devenus de plus en plus compliqués. C'est très compliqué parce qu'il y a des magistrats pour lesquels on a un profond respect et on aimerait bien, justement, à l'issue d'une audience, aller déjeuner ou dîner. on peut pas le faire. Enfin, moi, je ne le fais pas.
Vous vous interdis de le faire, en fait.
Je m'interdis de le faire parce qu'après, on manque d'objectivité. Mais à force de plaider devant certains magistrats, on a créé des liens de respect. Donc, on peut quand même prendre un café ensemble. On peut prendre un bar en face du palais de justice, un sandwich. Mais ça reste compliqué d'avoir des relations parce que, et pour eux et pour moi, il faut rester dans une certaine forme de distance,
oui.
Exactement.
C'est la même chose que vous appliquez vis-à-vis de vos clients,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais. Alors, ça m'est très enfin, voilà, c'est quelque chose que je m'impose, c'est une discipline, parce que, voilà, moi, je le dis, je l'écris, je ne tutoie pas mes clients, parce que j'estime que ça, c'est pour moi une proximité que je ne veux pas avoir avec eux.
Même si vous le demandez ?
Alors, la lionne, c'est pas pour rien non plus.
Vous avez réputation d'avoir un sacré caractère.
Voilà, c'est pas pour rien non plus. Les gens ne se permettent pas, les clients le savent depuis des années. Et donc, savent, c'est une marque de fabrique de mon cabinet. Ils savent que dans mon cabinet, contrairement à d'autres, on ne me tutoie pas et je ne les tutoie pas. C'est une forme de respect que j'ai pour eux et puis c'est aussi une forme de distance. Je pense d'ailleurs, vous savez, que pour un avocat, le pire, c'est de défendre un ami. Je défends, je crois que je ne l'ai jamais fait et j'espère ne jamais avoir le faire à défendre un ami. Parce que quand on est un ami, c'est comme, vous savez ce qu'on dit l'adage, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé finalement. Défendre un ami, on perd de l'objectivité. Donc le tutoiement pour moi, c'est aussi, au moment où il faut engueuler un client, c'est quand même plus facile de l'engueuler en le vous voyant.
Et mais c'est une demande qu'on vous fait, ça
on plus peut maintenant,
maintenant les gens savent que vous...
Et puis au début, ouais. Quand on le savait, comme je suis évidemment une femme, c'était, il fallait s'imposer. Et puis, ça aurait pu... Je trouvais dès le départ qu'il fallait créer de la distance pour pas que je ne sois pas associée à la femme, la copine. Que je sois toujours ce que je voulais être, je veux être avocate.
Maître Clarisse Serre est notre invité. Je rappelle que vous publiez votre premier livre, s'appelle La Lionne du Barreau, aux éditions Sonatine. Et vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois ce matin Maître Clarisse Serre. Bonjour et bienvenue.
Bonjour. Merci beaucoup.
Vous êtes avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Vous avez été conseillère pour la série Engrenage sur Canal+, des saisons 5 à 7, dites-vous. Et vous êtes là pour nous parler de votre livre qui s'appelle La Lionne du Barreau aux éditions Sonatine. La lionne, c'est vraiment l'animal qui vous définit bien ou vous êtes plus proche du pitbull ou...
C'est surtout le surnom qu'on m'a donné depuis très nombreuses années. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour le surnom. C'est la chevelure et puis c'est aussi le tempérament. Et puis c'est un qualificatif qui me va bien. Pitbull, ça serait peut-être un peu excessif. Donc la lionne, ça me va très bien.
Taureau.
Il se trouve que mon signe du zodiaque, je suis taureau. Donc j'aurais pu être appelée taureau, mais je trouve que pour quelqu'un qui suit féministe comme moi, la lionne, c'est ce qui me convient le mieux.
Donc ça vous va bien.
Ça me va bien.
Une heure de radio où nous allons vous écouter. La voix, dites-vous, c'est l'outil de base d'un avocat pénaliste. Alors on parle toujours des ténors du barreau. Et quel est le féminin des ténors du barreau ?
Écoutez, c'est un peu mon problème, c'est que ça fait maintenant 27 ans que je suis avocate et que je n'ai pas trouvé le qualificatif. Je sais que certains aimeraient utiliser le terme de ténora. Je n'aime pas, je trouve qu'il sonne faux. On me qualifie de temps en temps de diva. Ça me fait penser à, vous savez, à Tintin et la Castafiore. Donc j'aime ce personnage.
La Castafiore du barreau, c'est pas mal.
Ouais,
ça.
Ce serait pas mal.
Ah ouais.
Bon, alors après, c'est excessif, c'est mégalo, c'est prétentieux. Mais c'est surtout pourquoi dire la diva ? Bah, parce que c'est surtout pour attirer le regard des gens sur les femmes avocates. C'est avant tout ça. Parce que j'espère, grâce à ce livre, donner l'envie à des jeunes de pousser la porte du barreau. J'ai envie de dire aussi aux jeunes que c'est un métier difficile, contrairement aux apparences, aux séries notamment, où on pense que c'est tout feu, tout flamme. J'ai envie de leur dire que c'est un métier, il y a beaucoup de la ténacité et puis le travail qui est très important. Et donc, s'il faut qualifier de diva, de castafiore, de que sais-je, pourquoi pas, il faudrait trouver un terme qui est propre. Je trouve qu'on ne l'a pas encore trouvé. Peut-être que ce qui résumerait le mieux, ça serait pénaliste. voilà, parce que ça associerait à la fois la voix, l'expérience, et puis, vous le savez, maintenant, il y a plusieurs spécialités parmi le droit, et donc, avocat au pénal, c'est une spécialité à part entière.
Mmh. Quelle est la part de la voix dans le succès d'un avocat au pénal ? Vous pensez que c'est encore un atout et quelque ouais. chose qui permet...
C'est un sujet que j'aborde dans le livre, et des gens qui ont le livre m'ont dit bah tiens, c'est incroyable parce que finalement on n'en parle jamais de cette voix. Ça nous paraît, ce que tu as écrit, alors des confrères, des consoeurs, puis même des gens qui sont pas des gens du milieu judiciaire m'ont dit mais c'est un des chapitres qui a beaucoup plu parce que on n'en parle pas. Alors je me suis rendu compte, c'est qu'il y a de très bons avocats, des très bons juristes, et quand ils vont en salle d'audience, on ne les écoute pas. En fait, il y a toujours la distinction, vous savez, pour nous, entre entendre et écouter. Donc, il y a des avocats qui, vous savez, il y a des affaires malheureusement très simples. C'est le cas de ce qu'on appelle des comparutions médiates. Les gens qui ont volé ou qui ont été victimes d'un vol, ce sont des gens qui sont jugés en les 48 heures qui suivent. Si vous écoutez ces audiences-là, si vous y allez, vous vous rendrez compte que le même jour, les magistrats vont avoir 5 fois le même dossier. Et donc, l'avocat, comment va-t-il faire pour se distinguer ? En fait, on se rend compte que s'il y a différents avocats qui interviennent sur la même affaire, eh bien, il y en a 4 qui vont pas être entendus et puis 1 qui va être entendu parce qu'il va avoir une voix, notamment qui va attirer l'attention, l'ouïe, et qui va faire la différence. Alors, c'est aussi quelque chose d'injuste parce qu'on dit oui, mais on a le droit tous d'être avocats. Bien sûr, et c'est ce que je revendique, mais il y a un phénomène contre lequel on ne peut rien faire, c'est sa voix, c'est son ADN. C'est d'ailleurs pour ça au départ qu'on parlait des voix de ténor. Il y a aussi la voix des sopranos. Une femme peut être tout à fait un soprano, il n'y a pas de difficulté, mais la voix a son importance. Alors, parfois, avec humour, c'est ce que je dis aussi un peu, j'essaie d'écrire dans le livre, ça serait pas mal de faire comme certaines émissions de télévisées et de dire aux magistrats, retournez-vous, ou les avocats, on n'écouterait que la voix, on oublierait le physique. Évidemment, on ne pourra pas faire la distinction d'un homme et d'une femme, mais on écoutera uniquement et on sera convaincu sur la voix. Donc oui, la voix, ça a vraiment son importance. Ça peut, d'abord, vous savez, là maintenant, les choses ont un peu changé, il y a de plus en plus de micros, mais il fut un temps, il n'y avait pas de micro. Et donc, quelqu'un qui a une voix qui ne porte pas, on ne l'entend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à moduler sa voix, c'est pareil. Quand on plaide longtemps, il faut savoir aussi moduler sa voix pour toujours garder l'attention de ceux qui nous écoutent.
Vous avez travaillé, vous, votre voix ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout.
On vous a pas expliqué comment la placer, non. Comment l'économiser, surtout dans les... La voix, ça se fatigue énormément.
Ouais. Alors, on apprend au fur et à mesure du temps. Je pense vraiment qu'il y a quand même aussi une chance, il y a vraiment une question de chance. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà munis d'une voix plus importante que d'autres. Et puis maintenant, il y a des gens qui prennent des cours pour plaider. Il y a aussi pour moduler sa voix. Il y a des gens qui font, comme des chanteurs, qui font des entraînements. Donc, ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites parce que les gens disaient, mais c'est fini plaider maintenant. Ce qui compte, c'est la technique, c'est les avocats en droit des affaires. Et parallèlement à ça, on a vu un phénomène éclore depuis, je dirais, une dizaine d'années. C'est les concours d'éloquence dans les facultés, dans les écoles de commerce, même dans les lycées, ce qui prouve l'importance de savoir parler, mais de la voix également.
Vous avez été recalé.
Moi, j'ai été recalé.
Je ne sais pas que je le dise.
Mais je l'assume.
Mais vous avez une très belle voix. Je suis le premier.
Voilà, vous avez une
très belle voix.
Voilà, vous êtes le premier à me le dire et donc je le garderai dans mon cœur.
Moi, je vous aurais pas recalé.
J'ai été recalé. Alors, peut-être pas uniquement par rapport à la voix, mais c'est vrai qu'il y a un concours prestigieux qui est propre à Paris, qui est ce qu'on appelle le concours d'éloquence. Et j'ai été jusqu'au troisième tour et j'ai été recalé. C'est exact.
On dit souvent que les avocats ont une bonne plume. Et finalement, vous, votre plume, vous la mettez au service de l'éloquence et d'une plaidoirie, finalement, dans une stratégie de défense. Est-ce que vous avez un gros travail en amont d'écriture, peut-être sur des post-it, quand on voit sur les séries, sur des fiches cartonnées ? Est-ce que vous avez des notes pour peut-être mettre les bonnes formules, les choses qui pourraient vous servir stratégiquement dans un dossier de défense ?
Alors, c'est incroyable parce que justement, ce livre, La Lionne du Barreau, ça a été un vrai travail pour moi, parce que c'était un travail d'écriture. Et pourquoi ça a été un vrai travail ? Parce que je ne sais pas écrire. Donc ça a été, il a fallu organiser les choses. J'écris pas de plaidoirie. J'écris, comme vous dites, des petits morceaux épars. En revanche, je travaille beaucoup mes dossiers. J'ai une grande mémoire pour me rappeler de tous les procès-verbaux. Et le travail, dans les gros dossiers en particulier, se fait au fur et à mesure de l'audience. C'est comme un pulse. Les choses commencent à se mettre en place dans la tête. Et puis au moment de la rédaction, et souvent la veille de l'audience ou peu de temps avant de plaider aux assises, ça dépend quand on plaide, bah, c'est la feuille blanche. Donc il y en a qui écrivent toutes leurs plaidoiries. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc j'écris quelques mots, j'écris un plan, j'essaye d'avoir un fil conducteur. Mais je ne sais pas, je ne pourrai jamais vous communiquer aucune de mes plaidoiries parce que j'en ai jamais écrite une entière. Donc le livre, eh bien...
Il a fallu s'asseoir.
Il a fallu s'asseoir et j'ai connu ce que c'était que la feuille blanche et j'ai connu... Et j'ai pu, grâce à ce livre et grâce à mon éditeur Arnaud, j'ai pu toucher du doigt la page blanche de l'écrivain. Parce que, je le dis encore une fois, je ne suis pas du tout écrivaine. J'ai simplement voulu apporter mon témoignage et le livrer comme je le vis. Et donc j'ai pu sentir du doigt ce que c'est la difficulté d'écrire.
Vous êtes avocate 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un métier qui s'arrête jamais, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Mais comment ça vous vient l'articulation, une idée? Ça vous vient sous la douche? Ça vous vient quand vous allez faire un jogging? Ça vous vient... Il y a un moment donné, vous savez, quand on cherche un axe de défense, il y a un truc qui vient. Vous, qu'est-ce qui fait que vous dites ah oui, c'est ça que je vais dire?
Il y avait un président de la République qui avait dit une fois que le matin, quand il se rasait, il pensait qu'à une chose, c'est devenir président de la République. J'ai envie de vous dire, à mon petit niveau à moi, quand je prépare un dossier, je vais y penser dans le métro, je vais y penser au cabinet, je vais y penser partout. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une idée. Il n'y a pas de moment précis pour savoir. Puis il y a aussi autre chose, au pénal, c'est quand même très particulier comme matière, puisque je plaide que au tribunal correctionnel et en cour d'assises, c'est l'humain. Que je sois en partie civile ou que je sois pour un accusé, ce qui prime avant tout, c'est la relation que j'ai avec l'humain. Et donc la plaidoirie, elle va aussi se nourrir d'échanges qu'on va avoir eu en amont. Et puis à un moment, il y a quelque chose au débat qui ne sera pas sorti. Et moi, je vais essayer de le faire sortir. Donc ça vient à tout moment. On est comme une éponge. Je suis un peu comme une éponge. Je prends tout ce qui se dit pendant l'audience, mais on oublie souvent que le métier d'avocat, c'est bien avant l'audience. L'audience, vous savez, pour nous, c'est un tout petit pourcentage. C'est peut-être
comme un sportif qui s'entraîne,
voilà,
et qui va faire son match.
Quoi. Exactement. Il y a des dossiers. Je défends des gens. Là, je pense à des gens qui sont victimes d'un assassinat. Ça fait 3 ans qu'on attend le procès. Le procès pour nous n'a pas lieu le jour du procès, en fait. On a commencé en amont à préparer l'audience, à voir comment ils avaient vécu tout ça. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc c'est à travers ce travail de longue haleine qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est ça qui est magique dans la plaidoirie, qui sort de la bouche de l'avocat, mais qui nous échappe un peu. C'est-à-dire tout ce qu'on avait en nous-mêmes, eh bien on va réussir à le sortir et on essaye de le sortir. J'essaye de le sortir au mieux.
Alors aujourd'hui, on appelle ça le mindset. Le mindset de l'avocat, mais vous, quand vous rentrez dans un tribunal, comment est-ce que vous préparez? Est-ce que vous avez... parce que le but, c'est de gagner.
Oui. En fait, c'est pas la bonne question.
C'est pas la bonne question.
Non.
Dites-moi comment j'aurais dû poser ma question.
C'est pas la bonne question, parce que c'est pas la bonne question. En fait, si vous prenez un avocat en droit des affaires, ils font essentiellement du conseil. Eux, comme vous dites, c'est de la gagne. C'est-à-dire, il faut gagner, il faut que le client gagne son contrat. Malheureusement, au pénal, on gagne pas. Enfin, on gagne très rarement. Au pénal, quand vous êtes victime, vous attendez quoi? Que celui qui a commis les faits, et vous pensez que c'est lui, et ce que vous espérez, c'est qu'il soit reconnu coupable. Est-ce qu'une victime dit qu'elle a gagné un procès? C'est très rare. Ce qu'elle a voulu entendre, c'est la parole de la vérité. Quand vous défendez un accusé, ou quand vous défendez quelqu'un qui passe au tribunal correctionnel, ce qu'on appelle un prévenu, la gagne, c'est quoi? La gagne, s'il reconnaît les faits, c'est de s'en sortir le mieux. Voilà. Ou alors c'est celui qui n'a rien à se reprocher, c'est la relaxe, ou s'il y a un problème de procédure, c'est la nullité. Mais c'est surtout, on lutte pour essayer d'être au mieux, d'être performant en permanence. Voilà, sur les 100% de dossiers que je gère, il y a des dossiers où j'ai évidemment, mais comme tout avocat, eu des succès. Puis il y a eu notre vie n'est pas fait que de succès. Donc quand
c'est ça que vous expliquez. Alors c'est parce que c'est ça que vous expliquez dans votre livre, hein, c'est que on gagne pas toujours.
Non,
on n'a pas toujours des succès et que finalement, si c'est un échec, ça a un impact sur
Bien
vous.
Sûr. En fait, ce qui a été un peu faussé, c'est, je pense qu'il a été un peu, il y a deux choses qui, à mon avis, un peu faussé l'opinion publique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est pour essayer d'expliquer aux gens que l'avocat, c'est pas forcément l'avocat bling bling. L'avocat, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et que l'image que l'on peut véhiculer, elle est pas forcément bonne. C'est-à-dire, les gens pensent tout de suite, l'avocat il gagne beaucoup d'argent, et puis l'avocat, il nous oublie. C'est pas du tout le cas. Et je parle évidemment pour moi, mais je connais tellement d'avocats sur la France entière, parce que j'ai la chance de plaider un peu partout. On a tous le même souci. C'est un métier de passion. Avant tout, c'est un métier de passion. Donc, oui, c'est ce que j'ai voulu essayer d'expliquer. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que les choses ont été faussées pour deux choses. D'une part, toutes les séries, les séries mauvaises. Là où je n'ai pas été consultante, évidemment. Hein,
les mauvaises séries. Oui, voilà. Ça en fait pas mal, quand même.
Ça en fait pas mal, mais notamment les séries américaines, c'est pas. Évidemment, je plaisante, mais il y a aussi ça. Et puis, je crois que ça a été aussi faussé contre lui-même, d'ailleurs, mais aussi par notre ministre de la Justice. Parce que ça a été un immense pénaliste, mais que l'image qu'il a renvoyée, c'était une image que de succès. C'est pas de sa faute d'ailleurs, hein. Mais les journalistes ont renvoyé et l'ont appelé acquittateur en disant voilà. Et c'est vrai, c'est l'avocat, il faut le dire. Et moi, j'ai aucun problème pour le dire. Et même si aujourd'hui on ne peut plus le dire, mais ça a été le meilleur des pénalistes. Et il a acquitté un nombre de gens. Mais il faut aussi le dire. Et il le sait, et tout le monde le sait dans la profession. Il n'a pas fait qu'acquitter des gens. Et donc les gens ont fini par se dire que voilà, un avocat ça gagne, un avocat qui est puissant c'est celui, mais l'avocat au pénal, il ne faut pas oublier une chose. On est des auxiliaires de justice. La décision ne nous appartient pas. Celle à qui appartient la décision, ce sont les magistrats. Nous, si on avait le pouvoir, il y a des gens, je pense, que j'aurais demandé à ce qu'ils aient d'autres décisions. Il faut relativiser et il faut savoir ce qu'on est. On n'est que des auxiliaires.
Ouais. Quel rapport vous avez avec les magistrats ? Vous allez manger avec eux, vous dînez avec eux le soir ?
Alors, je dîne pas avec les magistrats. C'est un rapport qui est complexe.
Comme si vous expliquiez finalement le rapport que vous avez avec les magistrats.
Ouais, les choses se sont dégradées. Moi, j'ai la chance d'accueillir chaque année dans mon cabinet des futurs magistrats. Et j'y tiens particulièrement parce que je pense qu'en fait, avant de critiquer, il faut se connaître. Et donc, pour critiquer les magistrats, et que pour eux nous critiquent, il faut qu'ils connaissent l'envers du décor. Donc je les accueille chaque année avec grand plaisir. C'est des rapports qui sont devenus de plus en plus compliqués. C'est très compliqué parce qu'il y a des magistrats pour lesquels on a un profond respect et on aimerait bien justement à l'issue d'une audience aller déjeuner ou dîner. On peut pas le faire. Enfin, moi, je ne le fais pas.
Vous interdis de faire, en fait.
Je m'interdis de le faire parce qu'après, on manque d'objectivité. Mais à force de plaider devant certains magistrats, on a créé des liens de respect. Donc, on peut quand même prendre un café ensemble. On peut prendre un bar en face du palais de justice, un sandwich. Mais ça reste compliqué d'avoir des relations parce que, et pour eux et pour moi, il faut rester dans une certaine forme de
distance.
De distance, ouais. Exactement.
C'est la même chose que vous appliquez vis-à-vis de vos clients,
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, hein. Ouais. Alors, ça m'est très c'est quelque chose que je m'impose, c'est une discipline, parce que, moi, je le dis, je l'écris, je ne tutoie pas mes clients, parce que j'estime que ça, c'est pour moi une proximité que je ne veux pas avoir avec eux.
Et puis, même si vous le demandez ?
Alors, la lionne, c'est pas pour rien non plus.
Vous avez réputation d'avoir un sacré caractère.
Voilà, c'est pas pour rien non plus. Les gens ne se permettent pas, les clients le savent depuis des années. Et donc, c'est une marque de fabrique de mon cabinet. Ils savent que dans mon cabinet, contrairement à d'autres, on ne me tutoie pas et je ne les tutoie pas. C'est une forme de respect que j'ai pour eux et puis c'est aussi une forme de distance. Je pense d'ailleurs, vous savez, que pour un avocat, le pire, c'est de défendre un ami. Je défends, je crois que je ne l'ai jamais fait et j'espère ne jamais avoir le faire à défendre un ami. Parce que quand on est un ami, c'est comme, vous savez ce qu'on dit l'adage, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé finalement. Défendre un ami, on perd de l'objectivité. Donc le tutoiement pour moi, c'est aussi, au moment où il faut engueuler un client, c'est quand même plus facile de l'engueuler en le vous voyant.
Et mais c'est une demande qu'on vous fait, ça
on plus peut maintenant,
on peut tutoyer, mais maintenant les gens savent que vous...
Et puis au début, quand on le savait, comme je suis évidemment une femme, c'était, il fallait s'imposer, et puis ça aurait pu... Je trouvais dès le départ qu'il fallait créer de la distance pour pas que je sois pas associée à la femme, la copine. Que je sois toujours ce que je voulais être, je veux être avocate.
Maître Clarisse Serre est notre invité. Je rappelle que vous publiez votre premier livre, s'appelle La Lionne du Barreau, aux éditions Sonatine. Et vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est Maître Clarisse Serre qui est avec nous, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis. Alors ça n'a pas toujours été le cas, hein. Vous êtes maintenant à Bobigny. Avant, vous étiez dans les quartiers chics.
Oui.
Qu'est-ce qui explique que vous soyez allé à Bobigny?
Et pourquoi pas?
Ben parce que les bons avocats, ils sont à Paris.
Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les lieux communs qui disent finalement, c'est mieux d'être défendu par un avocat de Paris, tu vois, il est meilleur.
C'est pour ça que j'avais envie de lutter contre les stéréotypes. Mmh. Je trouve que... Non, moi j'étais avocate à Paris pendant 18 ans, j'y étais très heureuse. Et puis à un moment, je me suis posé la question d'exercer différemment et je me suis dit, pourquoi pas Bobigny? Et puis c'est aussi une chance, c'est un second départ.
Mais c'était quoi l'origine vraiment de votre... Quand vous dites c'était quoi? C'était un ras-le-bol, les loyers trop chers?
Il y a un ensemble de tout. J'avais eu des dossiers très lourds, très compliqués. J'avais plutôt envie de faire des dossiers peut-être plus simples de comparution immédiate à Bobigny. Les loyers trop chers. Et puis il y a aussi un autre facteur, c'est que quand on est pénaliste, on est très peu à son cabinet. Samedi matin, j'étais à la maison d'arrêt de Villepinte. Demain, je serai à mon cabinet. Mais mardi, je serai en audience à Paris. Donc on n'y est pas beaucoup. Et puis il y a aussi, c'est aussi mon caractère. J'avais envie de démontrer plusieurs choses. Quand j'ai toujours voulu être avocate au pénal, quand j'ai décidé, j'ai d'abord été collaboratrice, et quand j'ai décidé de m'installer, quelqu'un m'a dit mais non, pas au pénal, une femme n'a pas sa place, tu n'y arriveras jamais. Donc j'avais déjà eu envie de démontrer que j'avais envie de faire ça et j'allais peut-être me casser les dents. Et le chemin faisant, j'ai aussi envie de démontrer de lutter contre les a priori et de dire que à Bobigny, on a toute sa place, qu'il y a des très bons avocats. Et vous avez raison, en maison d'arrêt, moins maintenant, mais à un moment ça résonnait en disant et les ténors sont à Paris et les bons avocats sont des hommes, et moi j'ai envie de lutter contre ça à mon petit niveau. J'ai envie de dire que le parisianisme c'est une chose, mais il faut qu'on nous donne aussi la voix pour parler autrement. Et puis en plus je suis assez fière parce que j'ai devancé, maintenant il y a le Grand Paris qui arrive, Bobigny, il y a la ligne 5 du métro qui arrive jusqu'à Bobigny.
Ça fait longtemps, mais
vous dites ça fait longtemps, moi ça fait 9 ans que je suis à Bobigny. Quand la première année où je me suis installée, j'avais des étudiants en droit qui pensaient que j'étais encore à Paris et je disais attention, je suis à Bobigny. Ah ben non, on va pas venir, c'est loin. Mais je dis c'est l'autre côté du périphérique. Alors que maintenant la question se pose même plus. Donc Bobigny, oui, c'est un choix de ma part. J'ai envie. Je trouve que c'est un barreau qui est super. Il y a une vraie, une combativité, il y a une humanité dans ce barreau. Et puis il y a de la qualité. Il y a aussi ça. Il y a pas que Paris. Mmh. Moi, si vous me disiez.
Mais l'étiquette 9-3, ça vous a pas fait peur? Par rapport à la carrière, peut-être que vous vouliez faire.
Si, mais dans ces cas-là, on prend jamais de risque. On m'a dit de pas être pénaliste. Je suis pénaliste. On prend jamais de risque. Moi, j'ai une chance extraordinaire. Je fais un métier qui me passionne et je vis de mon métier. Et puis maintenant, j'espère à mon petit niveau, j'espère convaincre. Alors là où vous avez raison, c'est que dans le 9-3, il y a pas d'homme politique qui désigne des avocats du 9-3. Ça, c'est vrai. Si je peux faire un appel, je fais un appel en disant, mesdames et messieurs, si je vous le souhaite pas, mais si vous avez des affaires à la justice, eh bien, sachez qu'à Bobigny, il y a de très très bons avocats et c'est pas la peine d'aller à Paris. On a encore aussi cette barrière pour certains, des chanteurs. C'est vrai que dans les gens qui ont des moyens, ou médiatiquement, c'est toujours des Parisiens qu'on prend. Mmh. Alors que moi, j'ai la chance et d'exercer dans le 9-3 et de faire beaucoup de provinces. Et je peux vous dire que des avocats de qualité, il y en a partout, mais il faut se donner les moyens de les connaître.
Voilà, et grâce à vous, maintenant, Bobigny est une star de la télévision.
J'espère.
Faites tourner à Bobigny. Il y a quelque chose que j'ai trouvé fondamental dans votre livre, c'est que vous expliquez que pour être avocat, donc pour vous c'est une vocation, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école, et vous dites que finalement, pour être un bon avocat, il faut aller voir les bons avocats. Oui. Et il faut aller s'imprégner d'eux, il faut les fréquenter. Alors vous rendez hommage à ceux que vous admirez, hein. Vous en interviewez même un dans votre livre. Mais pourquoi cette dimension de la transmission, pour vous, elle est fondamentale?
Parce que je crois que je suis old school. Je crois que je suis ce qu'on appelle old school. Moi, je viens d'une région française très peu connue et j'en profite pour les saluer. Même s'il y a très peu d'auditeurs, c'est le Cantal. Et c'est un milieu rural, c'est un métier, et on a appris chez nous le travail. C'est une valeur dont on parle pas beaucoup. On pense tout de suite que un avocat maintenant, il passe à la télévision et c'est devenu une star. Je crois pas. Je crois que au contraire, il faut beaucoup beaucoup de travail. Et puis je crois à la transmission. C'est vrai que à la faculté, on apprend beaucoup de choses. On apprend le droit, c'est évidemment pour nous incontournable. Mais mais l'humain, on l'apprend pas. On n'apprend pas. Moi, je défends des gens qui n'ont rien à voir ni avec ma culture, ni avec mes idées. Et ça s'apprend. Et pour l'apprendre aussi, il faut aussi, ce qui est important, c'est les plus anciens qui nous ont tous éblouis. Et même des gens qui sont...
Les grands du... Alors, on parlait des ténors du barreau, mais c'est ça.
Bah, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant d'avocates femmes que ça, référentes. Mais il y a toujours, à mon esprit, évidemment, Henri Leclerc, Jean-Louis Pelletier, Jean-Yves Le Borgne, Jean-Yves Liénard. Il y avait tous ces grands avocats. Et puis, il faut dire ce qui est, ils ont une présence à l'audience.
À l'audience. Mais est-ce qu'ils sont généreux dans la transmission? Parce qu'ils sont un peu mégalos, les avocats, non?
Oui, mais enfin, vous savez, quand vous allez à l'audience, après, vous pouvez les écouter, et rien que dans les écouter, vous savez, je ne sais pas si vous êtes fan de Johnny Hallyday, on peut être fan de Johnny Hallyday, on ne l'a jamais approché, mais rien que d'aller à le voir sur scène, on absorbe des choses, il y a des gens qui vivent et qui pensent à lui le matin par une chanson, ça leur met le peps. Bon, bah, quand vous êtes un jeune avocat, vous vous dites, tiens, c'est comme ça que j'ai envie de venir, parce que lui, il a été capable de le faire. Après, moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que tous ces grands avocats, j'ai eu la chance de les côtoyer. Donc, c'est vrai que...
Mais c'est pas la chance, vous l'avez provoqué. Vous voyez, c'est peut-être de la chance. Mais en général, quand on arrive à rencontrer tous ceux qu'on admire, c'est qu'on a provoqué la chance. Hein.
Je pense qu'il y a aussi quand même il y a aussi des parcours de vie. C'est-à-dire qu'il y a quand même, moi j'ai eu la chance d'avoir un client, encore une fois, qui est âgé maintenant, mais
qui
m'a détecté.
Ouais,
voilà, il m'a détecté. C'est vrai que c'est lui, c'est incroyable, il m'a détecté. Il m'a dit aux autres, fais-moi confiance. Et puis le bouche à oreille s'est mis en place. J'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai vraiment beaucoup travaillé. C'est pas venu comme ça. J'ai 27 ans de carrière. Et c'est ça que j'aimerais aussi dire aux jeunes. Il faut être, c'est un métier, il faut jamais lâcher prise. Jamais, jamais, jamais. Même quand les avocats, je défie quiconque, mais tous les avocats, même les plus grands, Éric Dupond-Moretti, Jean-Yves Liénard, tous ces grands avocats, ils ont eu aussi des mauvais résultats parce que il y a des dossiers qui sont mauvais. On n'est pas des magiciens. Moi,
c'est des dossiers qui sont mauvais. Il y a deux choses. Il y a le dossier qui est mauvais et on peut soi-même avoir été mauvais sur le dossier.
Oui, mais on ne fait pas le tout. Je vous dis, la décision, elle ne nous appartient plus. Quand on plaide, on se donne à 100%. J'ai un très bon copain qui aussi fait partie des ténors parisiens. C'est ce que me dit toujours Christian Saint-Palais. On fait tout ce que l'on peut.
Ça, pour le coup, c'est un aptonyme. Hein.
Voilà.
Alors là, Saint-Palais, s'il n'était pas fait pour être avocat, c'est franchement...
Mais je crois que
Qu'est-ce qu'il vous dit,
Saint-Palais ? C'est à chaque fois qu'on en parle entre nous, c'est de se dire, on se donne un maximum. On fait tout ce que l'on peut à la plaidoirie. Et après, elle nous échappe. Elle va être, on transmet tout ce que l'on peut au juré, mais une décision, c'est une décision qui est rendue par un collectif. Que ce soit en correctionnel, c'est rendu par 3 magistrats. Que ce soit aux assises, c'est rendu par des magistrats professionnels et des jurés. Voilà, les gens, on est quand même très fragiles, les avocats, parce que on nous donne tellement, on pense qu'on est capable de tout, on est capable de vraiment soulever des montagnes, mais la décision finale ne nous appartient pas.
Duquel vous avez le plus appris et avec des leçons que vous appliquez encore aujourd'hui quand vous plaidez? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question?
C'est un peu émouvant de vous dire ça, mais le livre est dédicacé à quelqu'un qui me tient à cœur.
Qui n'est plus là d'ailleurs.
Qui est toujours là.
Qui est là?
C'est Pierre Haïk. J'ai beaucoup appris de lui. Et puis après, j'ai aussi beaucoup appris d'un qui n'est plus là, c'est Jean-Yves Liénard. Et puis de beaucoup de grands avocats que j'ai pas forcément rencontrés mais dont j'ai entendu parler.
Pierre Haïk, vous avez travaillé avec lui?
Oui, j'ai travaillé avec Pierre Haïk. Donc Pierre Haïk, j'ai beaucoup appris la ténacité, ne jamais rien lâcher. Pierre Haïk avait des très bons résultats et je me disais on va en parler pendant plusieurs jours. Et puis en fait le lendemain matin on passait à un autre dossier parce que on sait, j'ai aussi appris par lui le côté éphémère. Notre vie d'avocat est remplie de c'est d'une bataille quotidienne. Donc on ne peut pas se dire tiens j'ai eu un très bon résultat et je vais en vivre pendant des semaines et des mois. Non, à chaque jour suffit sa peine et surtout à chaque jour on remet ça.
It's over.
Oui, it's over.
Il y a des clients que vous avez refusés parce que vous les sentiez pas ou peut-être pas parce que vous aviez pas d'empathie ou
alors par principe
comme ça, je sais pas.
Non, par principe, je refuse pas de clients parce que je pars du principe que déjà c'est un honneur de me choisir. Premièrement et puis deuxièmement, j'ai décidé de faire ce métier pour défendre.
Oui, mais la veuve et l'orphelin.
Dans, oui, la veuve et l'orphelin plus jeune, mais maintenant je défends, je veux défendre. Alors après, au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui m'ont désigné, et puis on ne s'est pas entendu, et puis on s'est quitté. Mais de prime abord, je
vous avez dit oui. Vous avez dit oui au début, d'accord. Ouais. Quelle est la différence entre une défense utile et une défense efficace? Vous avez 3 heures.
Oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de la réponse. Une défense utile, c'est celle où on a accompagné quelqu'un, on n'aura pas forcément le résultat escompté, mais on lui a permis de s'ouvrir. Et le permis de s'ouvrir, ça va pouvoir faire passer la page et passer à une étape suivante. La défense efficace, bah, c'est celui pour lequel on a eu le résultat le plus extraordinaire possible.
Alors, c'est un livre que vous devez, d'une certaine façon, d'avoir épousé cette carrière. Vous pensez que votre livre va peut-être aussi donner, ne serait-ce qu'à une personne, envie de faire ce métier?
Bah, si c'est qu'à une seule personne...
Non, mais enfin, je veux dire, au moins une personne, vous voyez.
Ah, j'aimerais beaucoup. En fait, ce livre, j'aimerais qu'il soit mon image. C'est-à-dire que je viens de nulle part. Je ne fais pas partie de réseau. Je n'ai pas bénéficié d'appui. Je n'ai pas de famille dans les avocats.
Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un enfant de la balle.
Non, je ne suis pas un enfant de la balle. Puis même, pas de la balle, pas de réseau, ni quoi que ce soit. Et puis, le bouche à oreille m'a fait. Et j'espère que ce livre va avoir ce succès aussi grâce aux auditeurs et grâce à tous les gens que je vais rencontrer. J'espère qu'il va marcher comme ça. Ça serait vraiment un pied de nez justement à des gens qui bénéficient de réseaux. J'en ai pas. Et moi, je crois beaucoup aux gens qui m'ont fait confiance. Et j'espère qu'ils me feront confiance à ceux qui vont lire ce livre.
Bon, en venant du Cantal et sans réseau, vous êtes dans le top maintenant. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Je rappelle que votre livre s'appelle La Lionne du Barreau aux éditions Sonal.